Mercredi de juin à 16h dans l'émission Quoi de neuf sur Radio Campus Lille. Vous avez rendez-vous avec le festival Latitude Contemporaine avec pour cette édition 2025 sur le pont Ami, Lisa, Noah et Emeraude. Alors bonne écoute sur le 106,6 FM ou campuslille.com.
Bonjour à toutes et à tous les festivaliers, bienvenue en ce mercredi 18 juin pour la troisième émission du festival Latitude Contemporaine. Je suis ravie de vous retrouver sur la fréquence 106.6 de Radio Campus en compagnie de la fine équipe.
Vous venez d'entendre Emeraude, moi c'est Elisa, on co-anime aujourd'hui l'émission. On a Noah, notre philosophe à nos côtés et Amy, notre DJ à la régie.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Désormais, on va écouter Noah pour son introspection.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième chronique d'introspection. À l'occasion du récit Racines et héritages, renouer les identités proposé par le festival, nous avons décidé d'aborder aujourd'hui le rôle de l'art dans nos sociétés. L'art est un sublime vecteur. À travers l'art, les artistes s'expriment. Ils peuvent nous faire part de leurs idées, de leurs émotions, nous faire réfléchir, nous émerveiller, stimuler notre imaginaire et surtout nous rassembler. Pour certains, s'exprimer à travers l'art devient un exutoire dans un monde qui va souvent mal. Les artistes se transforment en cris du cœur pour exister ou pour résister. Les artistes sont essentiels dans nos sociétés car leur regard nous pousse à la réflexion, à la prise de conscience. L'art permet aux artistes de s'exprimer et de partager leur vécu, leurs émotions. En abordant l'exil, la quête de soi ou les racines, les artistes se livrent à cœur ouvert et font remonter à la surface des histoires qui ont été trop longtemps oubliées et invisibilisées. Les œuvres permettent, comme le dit le festival lui-même, de forger de nouvelles formes d'appartenance et de communauté. En parlant de leur propre histoire, les artistes tissent des liens avec chacun d'entre nous dans l'espoir de construire ensemble un monde meilleur. L'art permet notamment de s'interroger sur la quête de soi, l'exil ou les racines perdues. À travers leurs œuvres, les artistes parviennent à faire remonter à la surface des histoires oubliées, souvent en s'inspirant de leurs héritages. Sarah Abou Mrad est née au Liban. Dans son exposition « Rester ou partir », elle aborde les conséquences de l'exil et le déracinement. Dans son exposition, la table devient l'élément central de la maison. La table représente traditionnellement un espace convivial, un espace de partage. La table représente les héritages transmis, les moments partagés. Autour de cette table, on voit des assiettes vides ou abîmées, des chaises délaissées qui témoignent de la perte de repères et de la difficulté de l'exil. Dans ses œuvres, l'artiste représente des symboles issus de la mémoire collective libanaise. À travers l'art, les artistes peuvent témoigner de leur vécu. Marisa Cornero a dû fuir le Chili et l'Argentine après les coups d'État. Elle s'est installée en Bulgarie, puis en Belgique. Elle est ensuite allée au Mexique, puis en Angleterre. Elle est retournée en Belgique et elle vit désormais en Suisse. Ses œuvres témoignent de son vécu et parlent de l'identité et de l'exil forcé. L'art permet aussi aux artistes d'être écoutés. Natacha Canapé-Fontaine est écrivaine, poète et artiste interdisciplinaire Innu, originaire de la communauté de Pessami au Canada. Elle a reçu en 2017 le prix Droit et Liberté pour sa poésie. À travers ses œuvres, elle contribue au rapprochement des individus. Les artistes peuvent mettre en lumière des histoires qui ont été invisibilisées. La danseuse Inka Ezigrave dans The Disappearing Act explore les racines du flamenco. L'artiste, à travers la danse, nous fait découvrir que le flamenco s'est développé avec plusieurs influences qui ont été ensuite invisibilisées au cours de l'histoire. La pièce de théâtre Incendie de Wadji Mouawad parle de la quête de soi, de l'exil et de la guerre. Au décès de leur mère, des jumeaux découvrent l'existence de leur père et d'un frère caché. Ils vont partir à leur recherche et ils vont découvrir le passé tragique de leur propre mère. Ces découvertes difficiles vont leur permettre de comprendre les choix de leur mère et de pouvoir avancer en se reconstruisant. Au final, toutes ces œuvres permettent de créer un espace dans lequel on se réunit. Les artistes, en parlant de leurs racines et dans leurs héritages, redonnent voix à ceux et celles qui ont été oubliés ou trop peu écoutés. L'art permet de lier le passé et le présent pour nous permettre de mieux comprendre le monde. L'art nous interroge et nous amène à réfléchir ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Noah pour cette introspection toujours aussi excellente que d'habitude. Et tout de suite, la musique du spectacle Coup Fatal de Fabrizio Cassol, Alain Platel et Rodriguez, Van Gama, Toccata After Monteverdi, reprise de l'opéra 1607. C'était Toccata After Monteverdi, une reprise de l'opéra de 1607. Et pour faire suite à cette musique du spectacle Coup Fatal, je vais vous en faire une petite présentation. Coup Fatal est un spectacle conçu par le musicien et compositeur belge Fabrizio Cassol, le guitariste Rodriguez Van Gama et par le chorégraphe et metteur en scène Alain Platel. Cette œuvre est reconnue comme profondément humaine à la croisée des arts et des identités. Ce projet s'entoure d'artistes venus d'horizons divers pour créer une œuvre hybride mêlant danse, chant, théâtre et musique traditionnelle congolaise. On y retrouve une véritable fresque scénique. Le spectacle transcende les frontières disciplinaires et culturelles. Sur scène, les corps s'expriment, les voix s'élèvent, les silences résonnent. Chaque détail est habité, chaque mouvement chargé de sens. Ce qui rend cette création si particulière, c'est sa capacité à toucher chacun différemment. Coup Fatal ne se donne pas à comprendre de manière univoque. Il invite l'introspection à la résonance intime. Ce que l'on perçoit de l'œuvre dépend étroitement de notre propre histoire, de nos blessures, de notre sensibilité. Elle ne cherche pas à dicter un message, mais à susciter une écoute intérieure. Les artistes, eux, ne se contentent pas d'interpréter un rôle, ils incarnent, ils vivent, ils transmettent.
et chacun s'avance sur le plateau avec sa personnalité propre, sa culture, son vécu. Ce sont des voix singulières, puissantes, qui se rassemblent dans une harmonie collective sans jamais s'effacer. Ils ne cherchent pas l'uniformité, mais célèbrent la diversité de leur trajectoire. La musique, quant à elle, occupe une place centrale, à la fois enracinée et universelle. Elle est jouée en direct à l'aide d'instruments traditionnels du Congo, apportant une texture sonore, brute, organique et parfois hypnotique. Ces sons ancestraux ne sont pas là par simple décor. Ils portent la mémoire d'un peuple, le poids des silences, la force de la résistance. À travers eux, c'est tout un pan d'histoire et de culture qui prend vie sous nos yeux. Koufatal est donc un espace de partage, de transmission, mais aussi de rupture, où les récits s'entrechoquent, où les émotions se libèrent. C'est un spectacle qui ne se regarde pas passivement. Il s'éprouve, se ressent, se traverse. Ils nous font également participer. Ils choisissent deux personnes au sein du public pour les faire danser, dont Amy, à qui je laisse la parole.
Oui, alors, je suis complètement d'accord avec ta description. Moi, j'ai trouvé que c'était très joyeux et que... Oui, c'était très joyeux, c'est vraiment de la joie que j'ai ressentie. Et effectivement, il y a Roussel Kadima, le bassiste, qui est vers le milieu du spectacle. Il est venu me prendre pour danser sur un morceau. Et franchement, c'était très chouette. C'était très impressionnant parce qu'il chantait en même temps qu'on dansait, de l'entendre d'aussi proche. Et ils étaient très, très généreux et on sentait qu'ils avaient envie de partager leur culture, leur musique. Et jusqu'à même à la fin du spectacle, ils sont montés dans le public, dans les rangées. Et c'était beau parce qu'ils demandaient aux personnes de les soutenir pour les aider à monter. Et c'était très symbolique, très, très beau.
Merci beaucoup pour cette présentation, Elisa, et merci, Amy, pour ton avis. Et nous allons tout de suite entendre l'interview du spectacle Koufatal.
Pour faire le projet, c'est un projet où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que c'est très important de, à la fois, être dedans, d'avoir quelqu'un qui est dedans, et à la fois quelqu'un qui est dehors. Et c'est la synchronisation de ces deux énergies-là qui permettent de travailler, parce que comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de choses qui se passent, à la fois musicalement, à la fois au niveau du travail scénique. Donc il y a aussi Alain Platel, qui est qu'on dit être un chorégraphe, même s'il n'aime pas beaucoup cette appellation-là. Et donc il contribue aussi à ce travail. Donc c'est un travail d'équipe.
Et donc, d'où est-ce que c'est parti ce projet Koufatal?
Ouais, donc Koufatal, on a commencé la première tournée en 2014, mais on a eu avant ça 4 ans de préparation au Congo pour préparer la musique. Donc on a travaillé vraiment sur la musique et après vers fin 2000, donc disons début 2024, c'est là où on a commencé à travailler sur tout ce qui était la chorégraphie avec Alain, avec beaucoup de trucs que vous avez vu, les éléments comme la sape, tout ce qui est vraiment mis en scène. Là, on l'a fait à partir de 2014, juste avant d'aller en tournée. Donc la partie musicale a commencé déjà avant, en 2010. On a tourné de 2014 à 2016. Il y avait une pause et maintenant c'est la reprise qu'on travaille maintenant avec la Comédie de Genève qui prend la prod et puis autoproduction avec Nicolas Roux qui est à Toulouse. Donc et voilà, donc on est en train de tourner encore.
Et par rapport à la version 1, on va dire, est-ce que c'est le même spectacle ou il y a des choses qui vont changer ?
En principe, c'est le même spectacle, mais il y a toujours des éléments qui changent par rapport à l'étape qu'on a fait avant. Et maintenant, il y a l'expérience, il y a l'âge qui compte, il y a beaucoup de travail. Et puis, il y a au moins des changements d'artistes, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui était avant qui participe maintenant. Donc déjà, ils ont apporté aussi leur touche, où on devait aussi aller fignoler au niveau de la musique avec Fabrizio Cassol. Et au niveau de la mise en scène, aller recadrer encore plusieurs trucs pour rajouter la force par rapport à l'ancienne version. Et cette version, c'est encore très différent, mais ça reste le même spectacle.
Il y a beaucoup d'instruments sur scène, et beaucoup de styles musicaux aussi différents. C'est quoi vos inspirations?
Ok.
C'est très varié.
Oui, donc je vais parler déjà des instruments. Des instruments, la majorité d'instruments, à part la guitare, la basse, parce que j'ai une double, c'est une guitare basse. Et il y a Brinsley, l'autre guitariste qui joue la guitare acoustique et la guitare électrique. Mais la majorité d'instruments, c'est vraiment des instruments purement traditionnels du Congo. On avait la sansa, qu'on appelle la sansa, mais chez nous on l'appelle l'ikembe. C'est un instrument qui est fabriqué avec de lames en métal et des morceaux de bois coupés et gérés avec des micros, des trucs vraiment fabriqués au Congo. On a eu le ngoma, chez nous on appelle ngoma, qu'on appelle ici les congas ou les tam-tam, des trucs comme ça. On avait une calebasse juste à côté, qu'on jouait avec la main. Il y en a même deux. Il y avait le ngong, comme la cloche, et il y a aussi le balafon. Il y avait deux genres de balafon, le plus petit et le plus grand, qui étaient au centre. Les gros qui étaient sur sol. Donc le reste, ce sont vraiment des instruments purement traditionnels. Au niveau de musique, parce que déjà vous avez senti, il y a aussi la musique baroque. Il y a aussi une musique qui est mélangée avec le rythme que tu disais. Ce sont des rythmes vraiment, moi j'ai dit des polyrythmes, qui a une base, disons, du mélange avec la musique de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, tout ce qui est polyrythme, ça peut se mélanger à n'importe quel groove pour créer des grooves, parce qu'au Congo, on a au moins 450 ethnies et on a au moins 450 formes de jouer. Donc, c'est-à-dire que les accents changent, mais le rythme tourne comme des cycles, mais c'est-à-dire c'est comme la langue. Donc, c'est-à-dire un Français peut parler français mieux qu'un Belge. Un Belge peut parler français mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des accents qui changent, quoi. Donc, c'est la même chose avec le Congo. Au niveau de rythme, il y en a plein. Déjà, chaque ethnie a sa façon de jouer, a sa façon de parler. Parce que malgré tout, il y a quatre langues nationales. Ça aussi, je pense que vous allez dire les trucs. Il y a quatre langues nationales, mais il y a aussi des sous-langues dans chaque quatre langues nationales que personne ne comprend. Donc, tu peux être dans les mêmes provinces, mais il y a au moins des dialectes que tu ne comprends pas. Mais c'est la même langue. Exemple, le Lingala. Il y a plusieurs formes de parler Lingala. Les Kikongo, il y a plusieurs formes de parler Kikongo, donc c'est-à-dire que musicalement aussi c'est pareil, quoi.
Quel a été votre objectif en arrivant sur scène face au public? Enfin, qu'est-ce que vous voulez transmettre au public?
La joie et l'énergie. Et puis par rapport à la compréhension, il faut savoir que ce sont des spectacles qu'il faut vraiment les donner comme si on faisait un partage culturel. Donc c'est-à-dire tout ce qui se passe de l'autre côté de la planète, il faut qu'on se mette ensemble pour travailler ensemble, et c'est ça la force pour développer l'art. Et puis, je pense qu'il y aura des belles choses qui vont s'écrier en se mélangeant avec plusieurs cultures. Et c'est ça qu'il faut laisser. Parce qu'aujourd'hui, on voit avec la musique, il y a plusieurs formes de musique. Hein, parce que ce qu'on fait là, ça n'a rien à voir avec la musique électronique. Nous, c'est vraiment un gros mélange, mais artistiquement. Et on les fait en live. Et on les joue. On les ressent. L'énergie, c'est vraiment partagé direct, quoi. C'est pas dans un petit studio où on fait des trucs, on tripote des choses. Oui, mais ces genres de trucs, il faut vraiment qu'on les vive en réel et en vrai pour donner aussi accès aux gens qui vont venir après, ou des légués aussi aux gens qui vont arriver après, pour savoir vraiment que ça fait partie de la vie.
C'est tout à fait bien dit. Oui, comme tu dis, c'est un tressage de plusieurs choses. Évidemment, derrière chaque tressage, il y a encore d'autres choses qui, dans le spectacle, qui soulignent, c'est-à-dire qui parfois, si on prend un peu d'attention, par exemple sur le décor, ce qu'on dit le décor, ce sont des rideaux de douille, en fait, faits par un artiste qui s'appelle Freddy Zimba. Donc, ce sont des douilles qui ont été ramassées au Congo. C'est des douilles qui ont servi. Quand on voit ça sur scène, avec la lumière, on voit quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même quelque chose de très beau, en fait. Mais on n'est pas supposé le savoir, mais si on le sait, on voit qu'en fait, c'est beaucoup plus... C'est autre chose, c'est la beauté a un autre goût. Et je pense que dans ce spectacle, c'est tout dans ce que Rodriguez dit, dans ce tressage des choses qui peut paraître nécessaire, il y a beaucoup de niveaux de lecture. Et alors, c'est vraiment... C'est selon qui est disponible. Si ça réveille quelque chose, on peut comprendre un niveau de lecture ou un autre niveau de lecture. Donc ça, en fait, ça évoque énormément de choses. Les chants baroques qui sont là-bas, qui sont des extraits d'opéra, évoquent énormément de choses qui ont à voir avec les jeux de pouvoir, qui ont à voir avec voilà, la tyrannie, qui ont peu à peu. Et donc il y a des contre-champs qui arrivent dans certaines langues que Rodriguez explique, ce qui fait que dans ce tourbillon de langues, de sens, il y a aussi beaucoup de choses à apercevoir, et sans obligation, parce que ce que dit Rodriguez par rapport à la joie, c'est quelque chose qui est important, mais il y a aussi d'autres émotions. Et ça dépend un peu, quelqu'un peut arriver dans ce spectacle et puis être dans un état émotionnel qui fait que d'un coup, certaines choses, ou se dire, tiens, ces rideaux, qu'est-ce que c'est en fait, c'est bizarre, c'est pas trop ce que c'est. Et puis aller voir, puis dire, wow, mais ce sont des douilles. Wow, donc voilà, c'est un peu tout ça. C'est important aussi d'avoir ce contrepoint. Et puis c'est un grand contrepoint de personnalité. Parce que si, je pense que vous avez pu voir chacun des personnages sur scène à des moments où il peut s'exprimer vraiment beaucoup plus intensément. Et c'est tout aussi un croisement de toutes ces choses. Voilà, c'est tout ça qui est important. On peut faire des longues listes, mais on discute de beaucoup de choses quand il faut créer. On parle beaucoup de ceci, cela. Tiens, est-ce qu'il faudrait mettre ceci, cela? Comment faire arriver ceci? Comment faire arriver cela? Puis au moment, pour avoir cette grande fresque, c'est comme une grande fresque qui dure 2 heures.
L'infini, quoi. Ça ne finit jamais, on travaille toujours et on avance du jour au lendemain. Et la SAP aussi. Oui. Donc pour la SAP, au niveau du Congo, la SAP fait partie aussi de la culture aujourd'hui, parce qu'ils sont allés même un peu plus loin, parce qu'ils appellent ça, maintenant, c'est passé dans, pour une, ils s'y prennent pour une religion de la SAP. Donc, mais culturellement, moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à retenir dans ça. Il faut savoir bien s'habiller. Et bien se présenter devant les gens, il faut toujours être élégant. Surtout avec la musique au Congo, ça fait partie d'une branche pour les artistes. Donc tu peux jamais, jamais, jamais faire un concert mal habillé. Ça n'existe pas. Donc déjà tu seras critiqué à mort. Et je pense même pas que tu vas passer dans la rue pour te présenter encore comme un musicien. Donc ça ne se fait pas. Donc c'est vraiment une branche côté musical où ça tient vraiment le coup. Il y a exemple Papa Wemba, qui a vraiment soulevé aussi ces mouvements. Mais ce n'est pas que les Congo-Kinshasa, mais c'est les deux Congos, les Congo-Kinshasa et les Congo-Brazzaville. Donc c'est la même logique. Et il y a même des événements ou des affrontements. Nous, on les appelle des affrontements et des concurrences. Tu vois. Donc il y a des journées de concurrence où je m'habille chez moi, mais je sors dans la rue pour taquiner les autres. Quoi. Donc c'est-à-dire ainsi de suite. Moi, je suis bien habillé plus que toi, donc il faut vraiment démontrer des trucs. En bref, je dirais la SAP, mon SAP au Congo, pour nous, c'est Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est ça qui définit la SAP. Donc pour le moment, culturellement, musiciens, non-musiciens, docteurs, président de la République. Et ils ont même des gens qu'on appelle ils ont engagé même des gens pour leurs vêtements. Ouais, donc les gars, donc lui, il surveille que les habits du président. Donc, et aujourd'hui, tu vas mettre ça, pas ça, cette couleur-là, ça ne marche pas. Donc, ils sont là, conseillers vestimentaires. Et ça existe, il est payé pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tient la route au niveau du Congo. Il y a toujours le mouvement a commencé très, très longtemps entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Il y a eu même des gens qui ont commencé ces mouvements chaque année. Ils sont décédés. Chaque année, tous les sapeurs aillent au cimetière pour leur rendre visite. Et ils font des prières de la SAP. Et aujourd'hui, on l'a mis dans des spectacles pour montrer un peu comment l'ambiance. Vous avez vu au moins comment les dandines, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment ça l'ambiance de la SAP, quoi.
C'est quoi le moment que vous préférez dans le spectacle?
Je dirais, c'est quand le public est content. Donc, c'est-à-dire, avec cette émotion-là, voir le public, comment il réagit. Ça, c'est le moment où ça me donne plus d'émotion. Parce que tout ce qu'on donne, c'est vraiment pas pour nous. C'est pour les gens qui nous regardent, c'est comment ils ressentent. Et vers la fin du spectacle, tu vois, les gens, ils disent des choses terribles, quoi. Ça, c'est le moment d'émotion pour moi. Mais sur scène, je pense que tout est bien. Donc, les émotions, c'est à vous de les sentir. Parce que nous, on donne au maximum pour expliquer une histoire. Parce que chacun a son histoire, ça peut toucher n'importe quelle personne, selon son histoire, selon ses origines, selon qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a senti. Et après, c'est là où nous, on a maintenant l'émotion de partager avec les gens. Qui disent, ah, moi, j'ai senti ceci. Ah, ouais, toi, tu l'as senti comme ça. Ouais, ouais, moi, ah, ouais. Il y a des discussions. Ça, c'est le moment où j'aime beaucoup, après le spectacle.
Ok. Et vous?
C'est très difficile à dire, mais je vais profiter de la question. Je crois que c'était impossible de répondre à cette question. Et comme c'était impossible de répondre à la question, je vais en profiter pour dire une petite chose. C'est que dans toute cette musique, donc il y a beaucoup de, il y a des fragments de Handel, il y a des fragments de Jean-Sébastien Bach, il y a des fragments de Vivaldi, il y a des fragments de beaucoup de compositeurs baroques, il y a des fragments de musique traditionnelle congolaise, il y a beaucoup de fragments. Mais il y a un moment qui est peut-être qui est très émouvant. Ça me permet de souligner qu'il y a une chanson de Nina Simone qui s'appelle To Be Young, Gifted and Black, et c'est le moment où les chanteurs, il y a un moment où ils vont vraiment dans le public et qui viennent chanter, et je pense que on pourrait faire le spectacle s'il n'y avait pas cette chanson, mais le fait qu'il y ait cette chanson, le fait qu'il y ait cette référence de Nina Simone, le fait qu'il y a ce To Be Young, Gifted and Black, c'est un appel au soutien, de fraternité, c'est une chanson qui veut donner courage, c'est une chanson qui est inscrite dans le répertoire civique afro-américain aussi, voilà. Et le fait d'être dans le public pour les chanteurs et d'avoir cette image extrêmement forte où ils sont soutenus par un public qui est très souvent occidental, même s'il peut être très mélangé, et d'avoir ses mains qui se tendent pour aider le fait de chanter cette chanson, je pense que c'est un moment qui est vraiment très très fort symboliquement. Je crois que c'est un moment clé. On pourrait très bien vivre tout le spectacle avec beaucoup d'émotions, et puis là, on dit « Ah d'accord, ah oh, il y a ça aussi qui se dit ». Dans le spectacle. Et donc, moi, c'est un moment qui me touche très fort. Mais je triche en disant ça, c'est parce que je veux accentuer un peu ce moment-là, parce qu'en fait, il y en a une infinité. Parce que souvent, il y a même plusieurs choses à voir en même temps. Et donc, on sait qu'il y a quelqu'un qui va donner vraiment beaucoup de son émotion personnelle, pendant que quelqu'un va arriver petit à petit pour aller vers autre chose, il va tirer, va faire basculer, et ça dépend vraiment, je crois que le même spectacle, autant de personnes dans le public peuvent tout à fait le voir de façon différente.
Pourquoi Coup Fatal ?
Ouais, cette question, donc, oui, Coup Fatal, c'est un nom qu'on a choisi par rapport au début qu'on a commencé à travailler à Kinshasa pendant les 4 ans que je vous ai parlé, 2010-2014. Donc, normalement, on avait une idée de traduire le texte, parce que le texte c'était en italien, des trucs traduits, il faut les traduire en français. Et on avait un slammer qui s'appelait Alèche. On avait choisi pour faire la traduction et dire les textes pendant qu'on joue la musique, pour expliquer au moins comme c'était au Congo, pour comprendre au moins qu'est-ce que ça veut dire les chansons, des trucs comme ça, et rajouter aussi quelques mots à lui pour se dire qu'il écrit un texte mélangé avec l'histoire qui est chantée. Et il avait juste au début, la première chanson qu'on a fait, c'était Toccata. C'était vraiment, il commençait par un texte, et dès qu'il lançait avec le Coup Fatal est arrivé. Et ces mots-là, ça tournait dans nos têtes. Et puis à un moment, on s'est dit, oh non, on n'a pas encore les noms pour le projet. Peut-être le Coup Fatal est arrivé. Les mots Coup Fatal, on peut les garder comme le titre du spectacle. Et c'était aussi la force. Et puis dès qu'il déclenchait ces trucs, et c'était comme la marche militaire, on partait, quoi. Donc tu vois, c'est le même système qu'on a même musicalement dans le projet. Donc le titre vient de Alèche, qui était slammer, qui a travaillé avec nous, malheureusement, qui ne participe pas. Après, dans les trucs, parce qu'on avait changé l'idée de laisser vraiment les chants comme ça, sans traduction, et travailler. Donc, il n'avait plus le moyen de continuer avec nous. Donc, mais on avait gardé juste les titres.
C'était Fabrizio Cassol et Rodriguez Vangama.
Et tout de suite, nous allons vous présenter le spectacle que l'on a vu juste après Coup Fatal, c'est-à-dire Dispac Dispar. Dispac Dispar, qui veut dire ouvert, en désordre et agitation, révolte en breton. Ce sont sur ces mots très forts que Patricia Alliot et Mortaza Beboudi nous présentent un regard nouveau sur les exilés et sur leur chemin, leurs difficultés. En effet, c'est en 2018 que Patricia Alliot assiste à la session du Tribunal permanent des peuples consacrée à la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées en Europe. Il existe une version livre de ce procès que vous pouvez vous procurer en librairie ou en ligne. Ce livre recueille tous les témoignages des personnes exilées ainsi que l'acte d'accusation des droits fondamentaux qui devraient leur être appliqués mais qui ne sont qu'en réalité qu'écrits sur le papier plus qu'appliqués.
Et tout de suite, on écoute le micro-trottoir d'ISPAC dispare.
Pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais pas. Alors moi je m'appelle Ophélie, j'ai beaucoup aimé le spectacle, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais pas forcément regardé ce que ça allait être parce que je voulais avoir la surprise et du coup je m'attendais à beaucoup plus de choses artistiques ou de mise en scène et c'était pas le cas et j'ai adoré. J'ai aussi revu des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps qui ont témoigné et ça faisait du bien d'entendre tout ça à nouveau. Notamment Gaëlle Mandy parce que j'étais cordeau d'Utopia 56 Lille avant, à la création de l'antenne de Lille aussi en 2017 et du coup ça fait très 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 longtemps qu'on s'est pas vu donc ça faisait plaisir d'écouter les récits à nouveau.
Vous êtes aussi présente avec votre association. Est-ce que vous pouvez la présenter et dire en quoi ça entre en résonance avec le spectacle ?
Alors rapidement, nous on fait de l'accompagnement juridique pour les personnes exilées en deux formats, des permanences et des maraudes administratives, c'est-à-dire qu'on part sur les campements parce qu'en fait il y a une démarche d'aller vers qui est importante, il y a énormément de personnes qui ne vont pas se déplacer dans les associations, dans les accueils de jour et qui pour autant ont besoin d'un accompagnement et donc on essaie de le faire de manière un peu plus mobile. On fait de la régularisation mais aussi de l'accès à l'hébergement.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer toutes ces associations autour des sujets sensibles comme l'exil ?
Ouais. J'étais à la fac de droit à Lille ici et dans ma promo j'avais l'un des enfants des fondateurs d'Utopia 56 et en fait il m'a amené sur le campement de Saint-Sauveur en 2017 où il y avait 250 personnes qui étaient à Lille Saint-Sauveur dans des tentes et j'y suis allée une fois et maintenant ça fait 8 ans que je fais ça. C'est difficile après d'arrêter et de fermer les yeux quand on voit et quand on sait.
Je m'appelle Valentine, je suis bénévole à la CIMAD qui est une association qui vient en aide, qui accompagne les personnes exilées de plusieurs façons. On a une grosse activité d'accompagnement juridique, que ce soit autour du séjour, mais aussi de l'asile. Il y a aussi un accompagnement autour de la santé avec un pôle de protection maladie. On a aussi des cours de français, donc de français langue étrangère, pour permettre une meilleure intégration des personnes qui en ont aussi besoin pour pouvoir avoir des papiers. On a aussi une activité de sensibilisation, donc on est présent dans des événements culturels, comme là ce soir avec la pièce, mais aussi des interventions dans des établissements scolaires, auprès de centres sociaux, il y a des expositions aussi. Et on a une activité aussi de plaidoyer pour avoir une influence sur les politiques publiques et pouvoir les changer un petit peu pour un meilleur accueil des personnes exilées.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé du spectacle justement ?
Bah alors c'était très riche en informations. La première partie, ouais, très riche sur, comment dire, toutes les violations des droits des étrangers de la part de l'État français. Donc il y avait beaucoup d'informations mais qui étaient toutes hyper impactantes. La deuxième partie qui était très chouette aussi avec les témoignages, donc ça montre la réalité du terrain aussi. Et je pense que c'est important d'avoir des témoignages de, comme ils l'ont fait à la fois de personnes exilées, donc les jeunes, les mineurs isolés des Bois Blancs, mais aussi de personnes militantes sur le terrain, donc Utopia 56 et le boulanger qui a fait la grève de la faim, et le journaliste aussi à la fin qui parle de sa vision à la fois d'exilé et de journaliste. C'était hyper chouette d'avoir tous ces points de vue. Donc j'ai trouvé que c'était très complet, très instructif. Je crois qu'on n'en ressort pas indemne de ce spectacle. Mais c'est chouette. Enfin, j'ai eu peur le long du spectacle de ressortir déprimée, j'avoue. Mais à la fin, les témoignages, ça a fait du bien. Et du coup, c'était très chouette.
Et justement, vous, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer cette association ?
À la base, c'est un ami à moi qui est colombien, qui a eu des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour, qui m'a expliqué qu'il avait été voir une association pour l'aider à régler ce problème-là et qu'ils ont été d'une aide précieuse. Ça a accéléré un peu le processus. Et à ce moment-là, donc c'était il y a 5 ans, c'était en 2020, j'avais beaucoup de temps libre et du coup j'ai choisi de venir à une réunion d'information et après m'engager en tant que bénévole. Donc moi, c'est plus spécifiquement sur les permanences juridiques. Donc c'est les personnes qui viennent nous voir pour avoir des informations, pour nous exposer leur situation. Et nous, on essaie de trouver des manières de débloquer ces situations-là. Et comme j'ai une formation de juriste, ça m'intéressait de me spécialiser aussi un peu plus dans sur cette thématique-là. Et c'était
l'envie
aussi de faire ma part un peu pour aider ces personnes-là qui, malheureusement, ont pas beaucoup de... Leur voix ne se fait pas beaucoup entendre. Et si on peut être à leur côté, c'est bien.
Il est 16h36, vous venez d'écouter notre micro-trottoir sur Dispac Dispar. Tout de suite, le biais d'humeur d'Emeraude.
Alors les festivaliers, ce que j'aimerais dire au sujet du spectacle, c'est que les différents droits ne sont en réalité que des jolis mots imbriqués les uns sur les autres dans un traité international où des hommes en cravate se pavanent et montrent leurs dents à des réunions sans jamais réellement œuvrer pour faire appliquer ces droits. Autant vous dire que c'est comme écrire une recette de cuisine qui reste dans le placard. Au final, le plat, on l'attend toujours. Et franchement, en sachant que la chose qui effraie le plus les personnes souhaitant être naturalisées, ce n'est pas la mort, mais la préfecture française, je me suis dit « Ah oui, d'accord, effectivement, ça explique pas mal de choses dans ma propre vie. » Non, parce que... Il faut savoir que je suis enfant d'immigrés et qu'effectivement, j'ai aussi vécu à travers ma maman les rendez-vous à la préfecture, mais surtout la queue plus violente que les différentes gifles reçues par notre président. Je vous jure, tu me diras, s'il n'améliore pas l'administration française, est-ce que ces gifles sont légitimes ? En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a rien en France de plus effrayant que l'administration qui te fait bien comprendre qu'un bout de papier peut décider si oui ou non tu mérites, entre guillemets, d'être français. Mais alors déjà, rien qu'à l'épreuve de la queue, pire que Parcoursup, je vous assure que ceux qui franchissent cette étape méritent d'être régularisés. Et oui, le spectacle, en plus d'être touchant, j'avoue, j'ai versé une larme, nous a aussi montré un côté plus humanisant des personnes exilées. Et aussi, au-delà d'être de vulgaires données pour les journalistes parisiens qui ont sauté des étapes de bienveillance dans leur formation, ce sont surtout de belles personnes, de bonnes rencontres et de bonnes âmes remplies d'espoir. Et c'est sur ces mots que je vous laisse avec l'interview formidable du journaliste afghan Mortaza Behbouti.
On est là, je fais ce spectacle depuis la naissance de ce spectacle avec Patricia Lyon pour justement parler de la couverture médiatique de ce sujet, l'immigration et l'exil. Et à côté, raconter mon histoire d'exil, comment j'étais menacé en tant que journaliste en Afghanistan après avoir couvert le marché d'opium, après mon autre enquête avec un ami à moi qui a été décapité en Afghanistan. On raconte un peu en fait le parcours d'exil à la fois, mais aussi mon travail, mon parcours journalistique. Donc depuis l'Afghanistan en France et à la fois aussi mes reportages sur ce sujet. Qu'on parle les camps de réfugiés évidemment, comment aujourd'hui les médias parlent de ce sujet. On parle beaucoup des chiffres et statistiques, des dossiers, que certains médias ont criminalisé leur trajectoire des exilés, alors qu'à travers mes reportages à moi, pour les médias dans lesquels je travaille, j'essaie de leur donner la parole et humaniser leur trajectoire, parce que moi-même, je suis un ancien réfugié.
Et pourquoi avoir choisi justement le journalisme comme moyen d'expression ?
Alors, en Afghanistan, parce qu'à l'époque, en 2012, donc, il y avait un besoin crucial, parce qu'en Afghanistan, donc, moi, j'adorais prendre des photos. Et donc, quand je voyais qu'il y avait un besoin de couvrir les attentats, et donc, moi, je n'ai pas fait une école de journalisme. Donc, moi, j'ai fait une licence de sciences politiques et un master en relations internationales. Et donc, je suis devenu journaliste parce qu'il y avait un besoin. Parce que j'adorais l'image à la fois. Je voulais dénoncer, en fait, les attentats contre la minorité persécutée en Afghanistan, les Hazaras. Et donc, dès mes 17 ans même, j'ai commencé à couvrir les attentats, donc j'ai gagné des prix, j'ai travaillé pour plusieurs médias afghans sur place, et donc j'ai commencé à travailler avec les médias internationaux aussi. J'ai reçu des menaces, je suis arrivé en France, SDF, puis j'ai pu retrouver mon travail grâce à la maison de journalistes qui m'a accueilli en France, m'a hébergé à Paris. J'ai galéré au début parce que c'était difficile, le français n'était pas ma langue maternelle, j'ai trouvé un réseau, j'ai commencé à écrire, j'ai fait mon premier papier dans Libération, c'était Le Mal de Terre en 2017, et petit à petit j'ai trouvé des piges, parce qu'en fait je suis très bon avec les réseaux sociaux, donc je publiais sur les réseaux, et donc je me suis fait remarquer par les journalistes, notamment les sujets que je dénonçais sur les campements, notamment à Calais, les campements Saint-Denis, à Lesbos, où j'étais le seul journaliste pendant le Covid aussi, et donc en fait à travers mes reportages, mon regard en tant que réfugié, donc j'ai pu en fait collaborer collaboré avec plusieurs médias, et donc notamment les grands reporters français. Dans Maris Burgot, Martin V, Élise Doucet, j'ai fait des documentaires depuis sur ces sujets-là. J'ai voyagé dans 80 pays pour couvrir les conflits. J'étais le seul journaliste pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. J'ai travaillé avec des médias, j'ai réalisé un film, un envoyé spécial, plusieurs artistes reportages, bref. Donc tout ça parce qu'aujourd'hui, on a besoin des journalistes qui partent sur ces terrains, qui, en même temps, moi, parce que je parle la langue de ces pays, à la fois être multitâche, parce que je sais tourner, je sais monter, je fais A à Z, quoi. Et donc, et comme on est multilingue, on peut parler facilement aux personnes concernées. Donc, c'est comme on est dans un camp de réfugiés, donc moi, je parle arabe aussi, donc je peux parler en arabe aux Syriens ou d'autres. Et donc, oui, donc là, c'est important pour moi qu'on puisse parler à la fois et donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas. Et donc chercher à comprendre avant de, diffuser des diffamations. On vit dans un monde aujourd'hui qui circule, on est très connecté, très informé, et donc risque d'être manipulé par les chiffres. Et donc moi, je ne vais pas très loin parce que c'est un grand sujet. Mais voilà, moi, je lutte à ma façon contre l'infamation, notamment sur le sujet d'immigration, aussi essayer de donner la parole à ces gens qu'on n'entend jamais.
Comment est-ce que c'est né cette collaboration avec Patricia Alliot ?
Parce qu'elle a entendu parler de moi, parce que moi je travaillais avec Arte un peu partout. Donc moi je faisais des plateaux de télé aussi, France 24, quand il y avait, j'étais invité pour parler notamment les campements, les réfugiés, la liberté de la presse à la fois, quand il y a des journalistes, des attentats à travers. Et donc, à chaque fois, elle me regardait à la télé, elle m'a contacté sur les réseaux, elle dit « Mortaza, je veux bien te rencontrer ». Et c'était pendant Covid, en 2020. Et donc elle m'a dit « j'ai vu tes reportages sur les SBOS ». Et donc, j'aimerais que tu puisses, en fait, collaborer avec nous parce qu'on va lancer un projet. Il s'appellera Dispac Dispar. Et moi, j'adorais la Bretagne. Donc, c'est comme un projet breton. Je dis oui. En plus, on a parlé pour parler autrement sur l'immigration. Et donc, moi, mon rôle, c'est de parler sur la couverture médiatique des réfugiés et d'immigration à travers les médias français, parce qu'aujourd'hui, les médias français sont les médias parisiens, et donc on a mal, malheureusement parfois, traiter ce sujet, parce que c'est un sujet sensible. Parfois, on préfère ne pas parler. Là, moi, je suis là pour proposer et travailler sur ces sujets, et à chaque fois que je propose des sujets sur l'immigration, que ce soit en fait ailleurs, à l'étranger, ou à Calais, ou en France, ils acceptent, parce que je connais bien ce sujet, quoi.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'utilité du spectacle, comment est-ce que ça pourrait résonner, comment est-ce que ça peut rentrer dans les consciences?
Donc c'est un spectacle pour un grand public. Donc comme à la fois à travers l'art, on essaye de parler d'exil, d'immigration, changer les regards aussi. Donc à travers l'acte d'accusation lu par Élise, Marie, la danse de Bernardo, on dénonce aussi les violences policières, déjà documentées par la presse, par les médias. Donc on essaie d'énoncer ça et aussi informer les Français, parce qu'aujourd'hui, 7 Français sur 10, selon une enquête de la Commission européenne, 7 Français sur 10 ne connaissent pas vraiment la question d'immigration et d'intégration. Et donc nous, on essaie aussi d'informer les Français sur ce sujet à travers les témoignages aussi. Donc une partie de ce spectacle, c'est l'art, la danse et l'acte d'accusation. Et puis aussi, une deuxième partie, c'est nous, les témoins locaux qu'on a vus, les mineurs isolés, comment ils ont vécu en France, leurs arrivées, et moi en tant que voilà. Et les gens qui résistent, comme Stéphane Bravaquier, boulanger, qui a fait une grève de la faim pour son apprenti guignien, et aussi Gaël Monzi, qui a monté une association, et est devenue aujourd'hui une grande association en France, Utopia 56. Donc, à travers nos témoignages, on essaie d'informer les Français, et donc changer le regard sur l'immigration et l'exil.
C'était le journaliste afghan Mortaza Behbouti. Passons tout de suite au prochain spectacle avec récit de maillage et l'atelier de cuisine Zaatar, effectué avec Anna-Lena Anne, paysagiste et géographe, et Titiane Hatton, urbaniste et cueilleuse.
Et tout de suite, on écoute le micro-trottoir.
Je suis bénévole au festival depuis pas mal d'années. Et donc là, je suis venue pour découvrir cette proposition-là. Parce que autant je connais la cuisine commune, autant je ne connais pas bien toute l'histoire, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Et de partir des végétaux aussi. Et donc j'étais un peu intriguée de voir. Puis la notion de maillage, c'est intéressant. Tout ce qui se tricote entre les fils et les liens entre le passé, le présent, et c'est leur propos justement.
au niveau des plantes qui ont traversé, et le béton, et le temps, et les continents pour arriver jusqu'ici et exister. Et donc je trouvais ça très intéressant. Et effectivement, on parlait des rhizomes aussi, des arbres, on ne le voit pas, mais c'est sous terre, sous nos pieds, c'est pareil. Il y a plein de choses qui se passent, qui grouillent, qui se croisent, etc. C'est hyper intéressant. Donc j'ai trouvé ça très chouette, ouais. Puis le fait de faire une petite balade, calme. Elle parle très peu, elle s'arrête à certains moments. J'ai trouvé ça très bien.
Moi, je ne m'attendais pas du tout. C'est super intéressant, c'est super enrichissant, surtout pour les enfants, s'ils étaient nombreux. Alors que là, il y a plus d'adultes.